Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre accueil. Et nous tenions aussi, avant de commencer, à présenter toutes nos condoléances. Je sais que l'Église traverse un deuil pour le moment, donc voilà, on est de tout cœur avec vous. Alors, la méditation d'aujourd'hui, elle vient d'une lecture. Je ne sais pas si certains l'ont lu, Le Dieu prodigue de Timothy Keller. Alors l'été, c'est souvent une période un petit peu propice pour revenir aux fondamentaux. On a en général un petit peu plus d'espace pour réfléchir, pour revenir un petit peu plus profondément sur ce qui fonde notre vie. Et je vous propose, pour ce faire, de reprendre un récit qu'on connaît très très bien. C'est celui du fils prodigue. Alors c'est un récit qui est très évangélique, qui représente vraiment le cœur de notre foi, et je vous propose une réflexion donc inspirée du livre de Timothy Keller. Alors on va simplement d'abord lire le récit. Pour ceux parmi vous qui ont leur Bible, c'est dans Luc chapitre 15, les versets 11 à 32. Jésus raconte. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. » Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. C'est une belle fin. Mais ce n'est pas fini. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Et sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras ?»« Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi. » Et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Alors, c'est un récit très, très riche. Très brièvement, quel est le contexte? Les pharisiens, un groupe religieux juif, reprochent à Jésus de faire bon accueil et de manger avec des gens de mauvaise réputation. Et Jésus va répondre à cette accusation par trois histoires, par trois paraboles, qui est une manière un petit peu déroutante de répondre. Trois paraboles qu'on connaît bien. La parabole de la brebis perdue et retrouvée, la parabole de la pièce perdue et retrouvée, et cette parabole-ci, du fils perdu et retrouvé. Le fil rouge de ces trois paraboles, c'est l'investissement du chercheur pour retrouver ce qui est perdu, et la joie lorsque l'objet, l'animal et le fils sont retrouvés. Jésus essaye de renverser la vision religieuse des pharisiens, leur rapport à Dieu. Jésus essaye de leur dire « La rencontre avec Dieu, c'est une histoire de joie. » Alors, deuxièmement, les personnages. Alors, il y a trois personnages principaux. Il y a le frère aîné. Bienvenue. Le frère aîné, c'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités et du devoir. C'est quelqu'un qui fait les choses comme il faut, qui obéit. C'est quelqu'un d'actif et au service. On le voit quand il dit « Cela fait des années que je travaille pour toi comme un esclave ». Donc ce n'est pas quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un vraiment qui a mis la main à la pâte. C'est quelqu'un en général qui prend des responsabilités dans l'Église, qui est très fiable. Et il semble être au bénéfice des bienfaits extérieurs du domaine du Père, du royaume. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il ne semble pas heureux. Ça, c'est le frère aîné. Ensuite, on a le frère cadet, un autre profil psychologique. Plus insouciant, plus immature. Il a envie d'aventure, de profiter de la vie, faire la fête. Il apprécie pas trop les contraintes. Il aime la liberté, être maître de sa destinée, explorer. Il aime le plaisir, ce qui est agréable. Il a envie de se découvrir. Alors, à ce stade-ci, on peut tous faire le point un petit peu secrètement en nous-mêmes. On a tous un côté un petit peu plus frère aîné ou un petit peu plus frère cadet. Alors, juste à ce stade-ci, essayez de prendre conscience, même si en général c'est assez évident, de votre tendance personnelle. Le troisième personnage, qui est tout à fait à part, c'est le papa. Il a une personnalité hors du commun. On pourrait discuter ensemble longtemps de sa personnalité, mais je voudrais relever quelques traits. Premièrement, il est extrêmement bon. Il donne son héritage sans faire un reproche, sans poser une question, alors que vous serez d'accord avec moi, c'est un petit peu violent d'aller demander au papa l'héritage. En Occident, c'est ce qui normalement nous revient après le décès des parents. Donc, c'est quand même, ça a dû blesser le père, mais il ne fait aucun reproche, il donne généreusement. Il est juste, tous ses ouvriers sont bien rémunérés. Il est doux. Quand le frère aîné pique une colère à la fin, il lui dit « mon garçon » et il l'invite à venir faire la fête à l'intérieur. Mais le grand frère reste dehors, mais lui agit avec beaucoup de douceur. Il est compatissant, il accueille avec émotion, avec joie, de nouveau sans faire aucun reproche, ce fils indigne qui est parti avec sa fortune. Clairement, le père figure Dieu. Le papa ici, c'est l'image de Dieu. Alors cette parabole, elle illustre vraiment les deux voies par lesquelles les hommes cherchent le bonheur ici-bas. On a la voie illustrée par le frère aîné du conformisme moral, être responsable, fidèle à ses valeurs, morales et droits. Ce sont souvent les gens qu'on qualifie de religieux. Et puis on a la voie de la découverte de soi, de la quête du plaisir, s'affranchir de toute contrainte, explorer qui on est, vivre la liberté. Alors à l'Église, c'est souvent le premier type qu'on retrouve plutôt, même si évidemment on est tous ensemble. Et les représentants du premier camp sont persuadés que les autres sont dans l'erreur. Et inversement, ces deux visions du monde dont les individus représentants ont chacun vraiment du mal à se comprendre et à s'apprécier. Ce qui domine la première voie, c'est la droiture, le respect des règles et l'appartenance au groupe. Et ce qui domine la seconde voie, c'est vraiment cette quête très individuelle du plaisir et de la liberté. Ce que Jésus démontre dans cette histoire, c'est que la voie que lui propose, le chemin que lui ouvre, c'est ni la première ni la seconde voie. C'est une troisième voie. Il essaye de faire comprendre que la vraie vie à laquelle on accède par la foi, c'est une histoire de joie avec un grand J. C'est une histoire de rencontre avec un grand R, de rencontre intime entre un papa créateur qui aime avec une intense tendresse et ses fils et ses filles qui sont appelés à goûter cette présence, cet amour qui conduit en fait à une liberté profonde et à une intimité avec le Père. Alors je vous propose d'examiner les deux profils avec plus d'attention. Alors comme cette parabole s'adresse à des pharisiens, des frères aînés, je vais prendre un petit peu plus de temps sur le profil des frères aînés et puis ce sera un petit peu plus bref pour le frère cadet. Le frère aîné, il a servi son père durant toutes ces années et il a l'air quand même de faire ce qu'il faut. Peut-être que certains d'entre vous ont un petit sentiment d'injustice en fait en lisant cette histoire. Et pourtant, comme on le disait, sa réaction à la fin montre qu'il y a un problème de cœur. Qu'est-ce que ça révèle, cette colère ? Ben, de la rancune, de l'amertume, de la jalousie. Il y a quelque chose qui clairement ne va pas. Son cœur est malade. Alors pour tous les frères aînés parmi nous, voici une mise en garde sur les obstacles qui peuvent s'installer sur notre route et auxquels on peut être vigilant. L'activisme, ennemi numéro un. On est dans une société où l'agitation est presque un mot d'ordre. Alors je ne sais pas si la culture du Sud peut-être ralentit un petit peu vos modes de vie, mais en tout cas chez nous à Bruxelles dans le Nord, c'est très 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 cadencé, on va dire ça comme ça. On est surstimulé avec la technologie, il y a beaucoup de stress, d'exigences de performance, et on peut même avoir tendance à transférer ça dans notre vie spirituelle. On peut être très proactif, rentable, fiable au service. Et à ce propos, on peut peut-être laisser résonner un autre passage de l'Évangile qui n'est pas une parabole cette fois, mais un épisode réel. C'est aussi dans l'Évangile de Luc, et vous le connaissez aussi sans doute très bien, c'est les versets 38 à 42. Jésus était en chemin avec ses disciples et il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors dans cet épisode, on observe, je ne sais pas si vous vous êtes marqué par les similarités, mais on observe la même chose. Marthe est en train d'accueillir Jésus chez elle, c'est quand même sympa. Elle s'affaire, elle veut que tout soit bien, etc. Et puis on peut se dire, c'est quand même assez légitime, sa sœur est là à ne rien faire. Et donc, elle s'énerve. Même chose dans son cœur que pour le frère aîné. Jésus répond, je ne sais pas si ça vous marque, avec la même douceur. Moi, je suis toujours touchée par le fait qu'il répète deux fois son prénom. Alors, si on souffre avec ce problème d'activisme chronique, on peut vraiment noter ça au-dessus de notre lit ou de notre bureau, avec notre prénom à la place de Marthe. Bon, moi, je m'appelle Audrey, c'est un verset que je dois me répéter très souvent. Audrey, Audrey, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Dans un livre intitulé « À l'école de l'Esprit-Saint », Jacques Philippe dit ceci. Exiger de nous-mêmes plus que ce que Dieu nous demande est tout aussi grave que de se relâcher sur certains points et plus fréquent qu'on ne croit. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème ? C'est quand même bien de servir, de s'activer, pour une bonne cause en plus. Eh bien parce que lorsqu'on s'active trop, lorsqu'on ne prend pas de repos, qu'on ne se ressource pas, on commence à faire les choses par nos propres forces. Et voici ce qui peut
se produire. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc c'est une branche de l'arbre qui est encore attachée à l'arbre, mais qui est complètement desséchée. En fait, la seule chose nécessaire pour cette branche, la seule chose essentielle, ce serait d'être connectée au tronc pour recevoir de la sève. Marthe est trop occupée, en fait, pour écouter Jésus. Il n'y a pas de place pour cette sève, pour travailler son cœur. En fait, ça demande de l'espace pour que le cœur puisse être travaillé. La foi, c'est une histoire de rencontre et non de religiosité. Le frère aîné se tue à la tâche et il reproche à son père de ne pas avoir pu faire la fête. Et pourtant, à la fin, le papa lui dit « Mais tout ce qui est à moi est à toi, sous-entendu, mais tu pouvais faire la fête quand tu voulais, en fait. » Est-ce que le frère aîné, est-ce que nous, frères aînés, nous ne nous entêtons pas parfois dans notre propre vision de ce qui est juste, de ce qui doit être fait ? Le père offrait une liberté et des trésors dont le frère aîné qui a vécu des années n'a même pas pris conscience parce qu'il était trop occupé. On n'a pas l'impression qu'il a pris du temps pour être avec son papa. On ne ressent pas une relation entre les deux. Il n'est certainement pas dans un état d'esprit de célébration, de fête ou d'amour, mais plutôt de devoir et de responsabilité. Il ne s'est pas laissé transformer. Si on s'active comme cela parfois dans le service, ça peut aussi être par crainte. Il ne faut pas juger trop vite. Crainte de mal faire, crainte du jugement, crainte de Dieu. Quand on a le syndrome du frère aîné, on peut croire que rien ne sera jamais assez bien, qu'on n'en fait jamais assez. Et en fait, quand on donne comme ça un maximum, c'est pour espérer quelque part mériter sa faveur. Le centre du problème, c'est qu'il manque le socle de l'amour. L'amour du papa est un amour infini, un amour au-delà de toute limite, un amour qui nous précède, un amour qui nous englobe, un amour qui nous porte quand on ne sait plus marcher, un père qui donne tout à ses fils. Et cet amour, il transforme l'être humain en profondeur. Sans cet amour, tout ce qu'on estime donner risque de nous mener à un sentiment d'injustice et d'amertume. Ça, c'est pour l'activisme. Alors, le légalisme, ça, c'est aussi un très gros souci qui peut toucher les frères aînés. Quand on fait passer l'obéissance et le service avant la rencontre, quand on pratique le renoncement sans cette joie, soit au bout de quelques années, on rejette tout, parce qu'en fait, il n'y a pas la sève, et on se dit à quoi bon, on ne voit plus de sens, il n'y a pas l'essentiel, soit on risque fort bien de basculer dans le légalisme. Je ne dois pas faire ce que je veux, mais ce que la tradition et mon entourage me demandent de faire. C'est ce qui se passe en fait pour le frère aîné. J'essaye de tout faire comme il faut parce que je dois. Il faut inconsciemment essayer de mériter quelque chose. Dans sa colère, le frère aîné, il pense savoir mieux que le père ce qui est juste. Mais en fait, moi je mérite, mais pas lui. C'est quand même complètement injuste. Moi je fais tout comme il faut, mais lui il ne devrait avoir droit à rien. Il remet même en question son titre de fils. Quelque part, celui qui pense savoir mieux que les autres comment il faut se comporter, il prend la place de Dieu. On a vu la même chose chez Marthe. C'est quand même fou quand on y pense. Elle parle à Jésus-Christ, dit « Jésus, ça ne te fait rien de voir ma sœur là, assise, tu lui dirais pas de se lever, de m'aider. » C'est typique, quand on pense faire tout bien, on veut aussi imposer aux autres et à Dieu ce qu'il faudrait faire. Alors une question qu'on peut se poser chacun, c'est qui peut être un bon diagnostic. Quel regard en fait est-ce que je pose sur mes frères et sœurs dans mon église locale et de manière générale? Est-ce que on se sent rempli de grâce, de compassion et d'amour et on fait la fête avec ceux qui peut-être n'ont pas le même comportement que nous? Ou est-ce qu'on est prompt à juger? À analyser comment, pourquoi et dans quels détails les autres ne seraient pas peut-être de bons chrétiens. Dans Romains 14, verset 4, il est dit « Toi, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui ?» 4, verset 13 « Cessons de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre au travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher. De nouveau, plus d'amour, plus de grâce, plus de sollicitude les uns à l'égard des autres. Investissons-nous dans la vie de nos frères et sœurs avec bienveillance. Ne lui faisons pas porter le fardeau d'une loi trop lourde pour lui. N'oublions pas que le Christ s'est déjà offert en sacrifice. Si je n'ai pas l'amour, 1 Corinthiens 13, verset 2, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan, être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter les montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème? Ça me paraît évident, mais le frère aîné, il est séparé de son papa à cause de son légalisme. Son orgueil et sa morale se dressent entre lui et son papa. Il fait tout bien, il sert et donc il s'attend à recevoir de la reconnaissance. Mais il n'y a pas de relation tendre. Il agit en fait comme un serviteur, comme un esclave, mais il n'entre pas dans la véritable relation filiale. Il le dit d'ailleurs dans son cri de rage, « Travaille pour toi comme un esclave ». Le premier commandement, ce n'est pas « Tu serviras le Seigneur ton Dieu », mais « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Deutéronome 6, verset 15. Pour le clôturer, pour le frère aîné, que l'amour précède notre service, que la joie précède notre renoncement. Parce qu'on n'a pas reçu, Romains 8, verset 15, un esprit qui fait de nous des esclaves et qui nous ramène à la crainte. On a reçu un esprit qui fait de nous des fils adoptifs de Dieu. Et c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père, Papa ». Alors le plus jeune frère, rassurez-vous, ce sera un peu plus court. Alors il a aussi ses soucis, le plus jeune frère. L'ingratitude quand même. Il a soif de liberté, il veut être maître de son destin et il est persuadé être le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour lui. Il aspire à vivre des expériences, à tester, à goûter. Le frère cadet, sans scrupule, apparemment, il prend possession de son héritage, mais il ne va pas l'utiliser correctement. Il ne va pas en faire une très bonne gestion. Alors, qu'est-ce que cet héritage peut représenter? Évidemment, on peut parler des biens matériels, mais ça peut aussi représenter nos dons, nos talents reçus du Père et utilisés pour notre propre personne. Ça peut prendre toutes les formes possibles. Quête de plaisir, recherche de gloire, faire une brillante carrière. Peu importe en fait. Le point commun, c'est que le petit frère veut être son propre maître. Quand on décide de marcher à la suite du Christ, on ne renonce pas à ses talents et à ses dons. C'est simplement qu'ils vont prendre une nouvelle orientation, où ils vont être fertiles, fructueux. Quelles sont les implications du comportement du jeune frère? La première, très évidente, c'est la séparation physique d'avec le papa, géographique. On a reçu le don inestimable de la liberté. On peut choisir de suivre notre chair, nos aspirations. Le petit frère va faire sa vie. Il prend dans un premier temps ce que le père lui a donné sans s'intéresser véritablement à le connaître intimement et connaître sa volonté. Et au final, en suivant sa propre voie, il se trouve loin de son papa. Alors, la deuxième implication, c'est cette tendance un petit peu égocentrique. Sous une intention de liberté, on peut finalement devenir esclave de nos désirs, de notre aspiration première, et se rendre compte qu'en fait, au bout d'un moment, cette quête ne comble pas notre âme, bien au contraire. En Romains 13, verset 14, il est dit « Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. » C'est pas forcément ici, il ne s'agit pas d'être moralisateur, « Ah, il a mal fait. » C'est quelque chose qu'on fait aussi contre nous-mêmes. Quand on se laisse aller à ses désirs, au bout d'un temps, on peut se retrouver en fait à faire le même constat que le frère cadet. Notre âme se retrouve dans un état insatisfait, voire misérable. Et c'est là que le frère cadet va se retrouver dans une situation qui va le pousser à faire quelque chose de décisif, que le frère aîné ne va pas faire. Et c'est là que les frères aînés sont peut-être plus en danger que les frères cadets. Il se mit à réfléchir sur lui-même. Le texte dit littéralement qu'il fait un retour sur son propre cœur. Et il pense alors à son papa. Il commence à réfléchir au caractère de son papa et à la manière dont il traite ses ouvriers. Il commence à réaliser que même la plus basse condition serait meilleure à condition qu'il se rapproche de son papa, qu'il soit sous sa protection, dans sa présence. Il humilie son cœur. Alors ici, la parabole, elle nous enseigne quelque chose d'inimaginable et de très indigeste pour ceux qui se retrouvent dans le profil du frère aîné. C'est que le papa, non seulement ouvre ses bras, rempli de compassion, d'amour, mais qu'il attendait son fils. Il est encore en chemin, qu'il le voit, et il court vers lui, quelque chose qui ne se faisait absolument pas dans la culture de l'époque. Il ne lui fait aucun reproche. Au contraire, il honore son jeune fils, il lui coupe la parole, il ne le laisse même pas terminer. Il le serre dans ses bras. C'est un moment de tendresse extraordinaire, d'amour, de réconciliation, de vérité. Jésus essaye de nous faire comprendre que Dieu n'est pas ce juge lointain, écrasant et exigeant des pharisiens. Il est le papa qui nous attend chacun à la porte de la maison. Il se languit de nous serrer dans ses bras. Et à la fin de cette histoire, c'est une fête. Ils se mirent à faire la fête. Luc 15, verset 24. Alors pour clôturer, le frère aîné aussi est convié à la fête. On est tous conviés à la fête. Le papa va jusqu'à sortir pour l'inviter à entrer. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il boude. C'est vraiment ça, il boude. Il est jaloux, il est en rage avec un sentiment d'injustice. Les frères aînés doivent être vigilants. On peut passer toute une vie en pensant être dans le bon, dans le juste, dans le vrai, penser savoir mieux que Dieu ce qu'il devrait faire et ne jamais faire ce retour sur nous-mêmes qui nous permettrait d'être en vrai cœur à cœur avec notre Père, être vraiment au bénéfice de sa présence, de sa sagesse, de sa volonté, de son amour, de sa tendresse et être ainsi transformé. Le Seigneur ne se rencontre ni dans le légalisme, ni dans l'impiété. Aucun des frères ne comprend la liberté qu'il y a dans la maison. Il se rencontre dans un véritable retour sur nous-mêmes, au plus profond de notre cœur, dans une véritable attitude d'humilité, parce qu'on se rend compte que le plus ardent désir de notre âme, c'est que l'on veut juste être dans ses bras d'amour. Les bras d'un Père dont l'amour pour nous, frère aîné, frère cadet, a été jusqu'au sacrifice ultime de son Fils de toute éternité, le Christ Jésus. Amen.